en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Bonjour et bienvenue dans notre émission En habit vert, un habit vert qui aujourd'hui est endossé par Jacques de Bourbon-Busset. C'est le jeudi 28 janvier 1982 que le romancier Jacques de Bourbon-Busset était reçu sous la coupole. Il y était accueilli par Michel Déon. Élu le 4 juin de l'année précédente, Jacques de Bourbon-Busset prenait place au 34e fauteuil, précédemment occupé par Maurice Genevoix. Homme modeste et peu soucieux de publicité, gentilhomme dans tous les sens du mot, Jacques de Bourbon-Busset faisait preuve dans son discours de réception de beaucoup d'esprit. Il choisissait en effet de s'abriter derrière la déclaration qu'avait faite, au XVIIIe siècle, un duc de Coislin, élu alors qu'il n'avait que 17 ans. « J'avoue, messieurs, que la grâce dont vous m'avez comblé dépasse mes forces, mais je suis persuadé que, comme votre bonté m'a servi de mérite pour l'obtenir, elle seule me servira de langue pour l'en remercier. » Ayant ainsi fait sourire ses confrères présents, l'ancien diplomate et l'auteur du « Silence et la joie », grand prix de l'Académie française en 1957, pouvait alors commencer son véritable discours. « De la joie que vous m'avez donnée par vos suffrages, je vous remercie au nom de tous les miens, au nom de mes 4 enfants, au nom de celle qui m'accompagne depuis plus de 44 ans et qui est la chance de ma vie », ajoutait-il ainsi, résumant de manière on ne peut plus claire la place prépondérante et féconde que son épouse, Laurence, a jouée dans toute son œuvre. Capétien, descendant de Saint-Louis, de César Borgia, mais aussi du général de Colbert Chabanais, héros de l'Empire et compagnon d'armes de Maurice Dupin, le père de la future George Sand, Jacques de Bourbon-Busset est né à Paris en 1912. Après des études secondaires effectuées au lycée Henri IV, il entre à l'école normale supérieure en 1932. Reçu au grand concours du Quai d'Orsay, il devient alors attaché d'ambassade. Jacques de Bourbon-Busset participe ensuite comme lieutenant et dans l'infanterie à la Seconde Guerre mondiale. Fait prisonnier, il est détenu en Allemagne et tente par 2 fois de s'évader. En août 1944, le général de Gaulle le nomme président de la Croix-Rouge française. Il entame alors une longue et brillante carrière diplomatique. Dans l'ombre de Robert Schuman, puisqu'il avait été le directeur de cabinet quand celui-ci était ministre des Affaires étrangères. À ce titre, il peut véritablement être considéré comme l'un des parrains de la toute jeune communauté économique européenne. En 1956, alors qu'il n'a encore publié que 2 ouvrages, « Le sel de la terre » et « Antoine, mon frère », Jacques de Bourbon-Busset décide de mettre fin à ses activités professionnelles pour se consacrer entièrement à l'écriture. Il se retire alors sur ses terres, dans la propriété familiale de Ballancourt, commune de l'Essonne, dont il devient aussi le maire. Il acceptera toutefois de prendre la présidence nationale du Secours catholique en 1961, puis de devenir le vice-président du Centre européen de recherche nucléaire de Genève, un centre dont il avait d'ailleurs participé activement à la fondation. Dès lors, avec l'appui et la sollicitude de son épouse, Laurence, il rédige de nombreux romans. Le succès, tout autant le succès populaire que celui de la critique, ne tardera pas, puisque dès 1957, le Silence et la joie lui vaut le Grand Prix de l'Académie française, un prix dont on estime généralement qu'il ouvre à l'heureux lauréat les portes de l'Académie. Durant plus de 40 ans, Jacques de Bourbon-Busset a forgé une œuvre riche de près de 50 ouvrages dans laquelle l'enfance, le rapport à la mère, l'amitié fraternelle, la foi et plus encore l'amour pour son épouse ont joué un rôle déterminant. C'est que le romancier a vécu son enfance dans un lien quasi exclusif avec sa mère, un lien qui ne fut guère rompu qu'à l'adolescence pour que s'en tisse un autre qui, cette fois, le lia à son frère cadet, ainsi que devait plus tard en témoigner le roman largement autobiographique « Antoine, mon frère ». C'est dans ces liens affectifs très forts que Jacques de Bourbon-Busset comprit non seulement que sa vie serait vouée à l'écriture, mais que l'écriture serait aussi pour lui, enfant hypersensible, un moyen de communication privilégié avec le monde extérieur. Ob es mir denn entgangen
dass ich geweint hab, dass ich geweint hab. Meine Tränen, und seid ihr gar so lau, dass ihr erstarrt zu Eise, wie kühler Morgentau. Und dringt doch aus der Quelle die Brust so glühend heiß.
La maladie de son frère et la Deuxième Guerre mondiale furent aussi les deux grands révélateurs qui devaient confronter, douloureusement, le futur romancier au monde réel et à ses contingences. De son propre aveu, en effet, il les affronta fort de ses lectures adolescentes. Pascal, Descartes, Dante et Shakespeare. Jacques de Bourbon-Busset comprit aussi très vite qu'un certain détachement, celui que permet par exemple l'humour anglais, était indispensable pour tenir. Chez Dante, Bourbon-Busset devait découvrir la mystique de l'amour et, bien des années plus tard, lorsqu'il rencontra celle qui allait devenir sa femme, il fit immédiatement l'analogie entre Béatrice et Laurence. Chez Shakespeare, enfin, Jacques de Bourbon-Busset avouait avoir découvert un véritable univers dans l'univers, mais aussi l'amour, la folie et la mort. Là encore, tout comme la Béatrice de Dante, l'Ophélia de Shakespeare lui revint en mémoire lors de la rencontre avec Laurence Ballande. C'est aussi grâce à Shakespeare que le romancier comprit que l'amour était, par excellence, le meilleur antidote à l'ambition. L'imaginaire de l'amour durable est une donnée incontournable de l'œuvre de Bourbon-Busset, une œuvre frappée du double sceau du lion et de la femme muse. Le mythe du lion, tout d'abord, il permet à l'écrivain d'être à la fois un acteur et un spectateur de son œuvre. Un personnage et un narrateur d'une œuvre encore en devenir, toujours en devenir. La symbolique léonine est riche. Chez le grand seigneur qui descend de Saint-Louis, elle puise les mérites attribués en héraldique au roi des fauves, à savoir la force et le courage. Mais chez Bourbon-Busset, le lion cher à La Fontaine est un animal civilisé et sa sagesse tient par définition dans une espèce de retenue et dans une force maîtrisée qui fonde l'auteur, l'héritier des moralistes du XVIIe siècle français. Enfin, chez le catholique, lecteur de Pascal et des Évangiles, de Charles Henrion et d'Auguste Valencin, le lion vient rappeler celui de Saint Jérôme, celui de Saint Marc ou encore celui de Némée. Laurence, éternelle inspiratrice, dans l'œuvre de Jacques Bourbon-Busset, est indissociable du rôle joué dans le privé par l'épouse. Elle amène le romancier à réfléchir au couple, à la fidélité, mais aussi à la sexualité. Et Bourbon-Busset chante de l'amour conjugal et de l'indissociabilité du mariage chrétien de conclure que l'intimité du couple ne relève pas de la compétence des clercs. En le recevant au nom de l'Académie, Michel Déon lui-même soulignait, je cite, « Dans l'histoire de la littérature, on compte sur les doigts de la main les écrivains qui ont placé leur femme sur un piédestal aussi élevé que celui sur lequel vous placez Madame de Bourbon-Busset. » Il est plus fréquent de voir la littérature mettre en pièces les couples, les déchirer, les blesser, les séparer par des silences ou même nous assourdir de leurs disputes. La tempête, en effet, inspire de plus majestueuses pensées, de plus magnifiques descriptions que le calme plat. Et une scène de ménage est toujours d'un sel meilleur, pour les dramaturges, que les édifiantes amours de Philémon et Baucis. Vous avez choisi, monsieur, la voie étroite de l'apologie des amours conjugales, ou plutôt des ententes nuptiales, comme vous préférez dire, avec pour consolation d'être un des rares à l'avoir osé. Et Michel Déon, connaissant les qualités d'esprit du nouvel impétrant, de regretter publiquement « Comme nous regrettons de ne pas nous être cachés sous la table le jour où vous avez dîné avec Marcel Jouhandeau et son épouse, Cariatis, la belle excentrique, mieux connue par les écrits de son mari sous le nom d'Élise. Peut-on imaginer en effet contraste plus frappant que vos deux couples, l'un tout d'entente secrète et de compréhension, de fidélité et d'amour, l'autre remuant de haine à plein livre ? Et comme on pense, en regardant Marcel Jouhandeau et Cariatis s'assassiner à travers leurs livres, aux mots si puissants de Jacques Chardonne, le couple, c'est l'autre à bout portant. » Laurence, c'est tout à la fois l'épouse et l'amante, dans le sens que le XVIIe siècle accordait à ce mot. C'est aussi la sœur et la femme gardienne de l'amour dans le couple. Faisant sien le triple statut de la femme, tel qu'il est défini par l'Église catholique, elle est, comme Marie, mère de Dieu, vierge, épouse et mère. Présente sous la coupole lors de la réception de son mari ce jeudi 28 janvier 1982, l'épouse de Jacques de Bourbon-Bucet, Laurence Balland, devait malheureusement décéder 2 ans plus tard, laissant seul le lion, mais occupant désormais la place de l'ange gardien, comme elle avait occupé celle de muse et d'inspiratrice durant tant d'années. Jacques de Bourbon-Bucet la rejoint le 7 mai 2001. C'est le poète, traducteur et romancier François Chang qui lui a succédé au 34e fauteuil où il a été élu le 13 juin 2002. L'hommage de l'Académie. À sa mort, l'Académie française devait rendre à Jacques de Bourbon-Bucet plusieurs hommages, par la voix de Jean-François Revel et du cardinal Jean-Marie Lustiger notamment. Pour le cardinal archevêque, l'image de l'académicien défunt ne pouvait être dissociée de celle de son épouse, Laurence. Comment ne pas évoquer, insistait-il, son épouse Laurence et sa famille? Des générations de jeunes, de fiancés et d'époux ont découvert avec émerveillement et continueront de découvrir grâce à ces livres que l'attachement donne un sens à la vie et que la joie suprême est la joie d'aider un être à vivre. Jean-François Revel insistait, lui, sur le rôle qu'avait joué de 1948 à 1952 Jacques de Bourbon-Bucet, du temps qu'il était le directeur de cabinet de Robert Schuman et que s'esquissait le projet de la future communauté européenne. Il revenait ensuite sur les qualités d'écoute de l'académicien décédé, sur ses qualités de tolérance et sur le fait qu'il avait été, autrefois, l'ancien élève du philosophe Alain. Le 19 juin 2003, 13 mois après avoir été élu à l'Académie française, au fauteuil laissé vacant par la mort de l'auteur du livre de Laurence, derrière ce titre se cache en fait le journal intime de Bourbon-Bucet, il revenait à François Chang de faire l'éloge de son prédécesseur. Et c'est tout naturellement qu'il commença ce panégyrique par un portrait de Laurence Balland, en insistant sur le rôle déterminant qu'elle a eu dans l'œuvre comme dans la vie intellectuelle de son mari. Pour Cheng, Laurence était originaire de Saint-Onge, on le sait, et son père, officier de marine, était mort jeune. Elle a grandi en fille unique auprès de sa mère, et de son propre aveu, elle a connu une enfance difficile, voire malheureuse. Elle a choisi d'étudier l'économie pour s'établir dans la vie. Après son mariage, d'abord au château du Saussay en Île-de-France, puis, à partir de 1969, à la campagne du Lion, dans le Haut-Var, elle a révélé son vrai penchant, un amour foncier pour la nature et le travail de la terre. Cet amour, chez elle, joint à un caractère passionné et à sa prédilection pour la musique, a fortement marqué son époux, ébranlant l'intellectualisme parfois trop poussé de ce dernier, et le forçant à sortir de son habituelle réserve. L'homme pour qui la fonction de la femme est d'assurer la liaison entre l'être humain et le cosmos s'ouvrit alors à une plus vaste dimension de vie. Résumant le thème central de l'œuvre de son confrère, François Cheng la présente comme suit. L'amour durable, ou l'amour absolu, une idée qu'il est fier d'avoir remise à l'honneur. De cette idée, d'aucuns peuvent se gausser, surtout à une époque, la nôtre, où l'amour entre hommes et femmes est plus que banalisé. Il a fallu du courage à Jacques de Bourbon-Bucet pour exalter non cet amour en soi, mais plus son caractère absolu, et encore sa durée. Il ne le fait pas au nom de quelques conventions bourgeoises ou d'une abstraite morale de fidélité. Il se base avant tout sur une expérience vécue et sur l'observation d'une donnée fondamentale de la promesse de vie. une donnée riche de virtualité et d'implication. Jacques de Bourbon-Busset est convaincu que l'univers vivant n'est pas fait d'un ramassis d'éléments disparates agissant aveuglément dans des rencontres de hasard. Pour lui, le moteur essentiel de cet univers est une alliance créatrice fondée sur la loi de la différence et de la durée. Et cela, depuis l'existence des particules jusqu'aux consciences les plus élevées. En homme de foi, Bourbon-Busset n'hésite pas à affirmer que Dieu est désir d'alliance. Enfin, revenant sur l'idée de communion, de partage et de transmission qui étaient les idées forces du couple formé par Jacques de Bourbon-Busset et son épouse Laurence, le nouvel académicien rappelait qu'elles sont aussi les valeurs qui fondent depuis sa création la légitimité même de l'Académie française. Et, pour parachever ce portrait du lion, on ne résiste pas à cette citation de Socrate, reprise par Michel Déon dans son discours en guise de bienvenue à Jacques de Bourbon-Busset, ce jeudi 28 janvier 1982. « Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous deviendrez un homme heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est une très bonne chose aussi. »